RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
La France va vivre et vit déjà à l'heure des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu cet été. Et les chrétiens ne seront pas en reste d'ailleurs. Et les églises se mobilisent déjà depuis plusieurs mois pour être au rendez-vous. Mais pourquoi et comment catholiques et protestants ont-ils choisi de participer à leur manière aux Jeux Olympiques? On va regarder ça de plus près avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on verra concrètement quelles sont les propositions chez les catholiques et chez les protestants. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous trouvez normal que les églises se mobilisent à l'occasion des JO? Pensez-vous que les valeurs du sport soient aussi des valeurs évangéliques? Et si vous êtes consacré dans l'église catholique ou engagé dans l'église protestante, parlez-nous du sport que vous pratiquez, de ce que le sport vous apporte également. On vous attend 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec Véronique Alzieux ce matin. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. Et si l'on part du principe que tout ce qui concerne l'homme intéresse Dieu, alors il n'y a pas de raison que les églises ne s'intéressent pas à l'événement qui va tourner les regards du monde entier vers la France cet été. Je veux bien sûr parler des JO. Des milliards de téléspectateurs, des centaines d'athlètes, des centaines de milliers de visiteurs dans l'Hexagone et dans les dom-tom, les églises ne pouvaient pas passer à côté. Le sport véhicule des valeurs qui depuis longtemps intéressent les églises et sur lesquelles elles se sont appuyées dans les patronages et autres camps de jeunes. Et puis dans une religion qui confesse que Dieu s'est incarné, ce qui a trait au corps et à l'activité physique ne doit-il pas avoir toute sa place ? Cela semble évident aujourd'hui, mais rappelons-nous que pendant des siècles, le corps fut suspect dans les églises et considéré comme un objet de péché bien plus que comme une bénédiction ou un lieu d'épanouissement et de bien-être. Les bémols au sujet des JO ne manquent pas, coûts exorbitants, démesures, questions géopolitiques et j'en passe. Mais qu'on soit fan ou pas, réjouissons-nous l'espace de quelques semaines de ce que les nations se retrouvent pour s'affronter dans des stades, sur des pelouses ou des planches de surf, si seulement c'était là les seuls lieux de guerre dans le monde. Quoi qu'il en soit, les églises catholiques et protestantes sont dans les starting blocks et c'est bien le sujet de cette émission, Melchior.
Et pour en discuter dans cette première partie, on a le plaisir d'accueillir deux invités.
Isabelle de Châtelus, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice de Holy Games, Jeux Saints en bon français, le projet de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avec nous également Jean-Fred Berger, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident de la commission JO et Paralympique de la Fédération protestante de France. Alors Isabelle de Châtelus, d'abord, est-ce que vous pratiquez un sport ou des sports?
Ah oui, sinon je ne serais pas là avec vous.
On ne sait jamais.
Je suis tombée dans le sport depuis toujours. J'ai toujours été grande passionnée de sport, à la fois pour sa pratique, parce que je pense que c'est quand même le lieu premier de joie, de pratique, de participation à ce phénomène qu'est le sport. Donc moi, je pratique le tennis. Je joue également pas mal au football, en famille notamment. Et je m'intéresse, on va dire, à tous les sports. Peut-être avec un peu plus de mal pour les sports de combat, mais j'ai un certain nombre d'applications sur mon téléphone qui permettent de suivre l'actualité sportive. Et puis, je suis surtout une grande passionnée par ce qui se joue dans ce phénomène social.
Jean-Fred Berger, est-ce que vous avez une ou plusieurs licences dans des fédérations sportives?
Alors, des licences, non, mais j'ai une grande activité sportive à mon actif, puisqu'en effet, j'ai fait une carrière militaire de près de 40 ans. Et donc, c'est un endroit, un lieu de vie où on pratique le sport absolument tous les matins. J'ai commandé un régiment de parachutistes et tous les matins, mes 1000 parachutistes étaient rassemblés. On partait courir ensuite. J'ai fait aussi donc des centaines de sauts et je continue à pratiquer la course à pied. Et ce matin, au petit matin, j'ai fait une séance de sport déjà avant de rejoindre l'antenne.
Voilà, alors je précise justement que vous êtes, donc je le disais, président de la commission des JO et paralympiques de la Fédération protestante de France, mais vous êtes également, Jean-Fred Berger, président de la commission de l'aumônerie aux armées de la Fédération protestante de France depuis 2015. Donc autant dire que le sport et vous, ça ne fait qu'un. D'une part, on vient de le dire, vous êtes tous les deux des passionnés ou vous intéressez d'une manière ou d'une autre au sport, mais vous êtes aussi des chrétiens. Isabelle de Châtelus, la foi a toujours fait partie de votre vie ?
Oui, la foi a toujours fait partie de ma vie et c'est vrai que ce projet que l'Église m'a proposé, cette mission qui m'a été donnée par la Conférence des évêques et le diocèse de Paris, rassemble ce qui m'anime dans ma vie, c'est-à-dire la foi, l'amour du Christ, faire connaître Jésus à ceux qui m'entourent, et puis le sport, parce que c'est vraiment mes deux poumons, avec bien sûr un poumon beaucoup plus vivant et un poumon qui me portera, j'espère, jusqu'à l'éternité. Mais en tout cas, la foi m'anime parce que c'est le cœur de ma vie, tout simplement. Et c'est intéressant qu'on parle de sport aujourd'hui parce que pratiquer la foi, c'est un exercice de tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais moi, j'ai une vraie certitude, vraiment ancrée en moi depuis toujours, de cette présence de Dieu à mes côtés. Et je suis vraiment accompagnée, particulièrement dans ce projet, par cette phrase que le Seigneur nous dit, « Je te conduis sur le chemin où tu marches ».
Jean-Fred Berger, quel sens a pour vous la responsabilité qu'on vous a confiée à l'occasion de ces JO au sein de l'Église protestante ?
Alors, cette responsabilité est assez écrasante, hein, parce que la dernière fois qu'il y a eu une organisation similaire, c'est en 1924, hein, donc ça a lieu tous les 100 ans, et je mesure à la fois la chance, mais aussi la responsabilité, hein, d'être à la hauteur des enjeux. Et comme Isabelle vient de le décrire, moi aussi, donc j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ. J'ai vécu une conversion personnelle dans ma toute jeunesse. Je suis engagé dans l'Église, hein, dans cette Église de Jésus-Christ. Je suis président d'une paroisse protestante à Dreux et j'ai des années de responsabilité dans les églises et au sein de la Fédération protestante. Par ailleurs, j'ai une épouse qui est aumônier militaire de réserve et puis j'ai un fils qui est jeune pasteur dans les Cévennes. Voilà. Et donc, pour moi, la foi chrétienne est vraiment nourrie mon existence chaque jour et elle m'a accompagné et le Seigneur est là. Je pense que c'est ce qui me donne la force. Et l'inspiration pour affronter les défis, parce que je suis certain qu'on va les aborder. Les défis sont nombreux, mais on voit aussi les victoires les unes après les autres et les progrès dans la préparation de ces événements.
Vous connaissez tous les deux, les églises protestantes et catholiques ont travaillé et travaillent ensemble pour être présentes au cœur de cet événement mondial. Isabelle de Châtelus.
Bien sûr, on se connaît et je suis très heureuse d'être là avec Jean-Fred. Pour moi, personnellement, cette mission autour des Jeux Olympiques pour l'Église est vraiment une occasion d'approfondissement des relations œcuméniques que j'avais déjà un petit peu abordées par de précédentes missions. Mais le sport permet réellement de travailler ces relations et c'est une vraie joie. De toute façon, on a une mission commune qui nous oblige, entre guillemets, à travailler ensemble, qui est celle de l'animation de l'aumônerie du village des athlètes. Et donc, de fait, on est tenu de travailler ensemble. Et voilà, je trouve qu'il y a des très beaux ponts, il y a des très belles réflexions, qu'il y a des projets communs dont on pourra vous parler, qui, j'espère, porteront beaucoup de fruits pour l'unité des chrétiens.
Alors, bien sûr, on va reparler dans le courant de cette émission des manières dont vous allez être présents, dont les églises vont être présentes au cœur de cet événement que constituent les Jeux Olympiques, un événement quand même tout à fait notable. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit rappel de la manière dont les églises et les chrétiens se sont situés vis-à-vis du sport. Je rappelais dans l'introduction de cette émission que quand même le corps a longtemps été un peu suspect dans les églises. Hein. C'était plutôt un lieu de péché qu'un lieu de bénédiction. Est-ce que vous souscrivez, Jean-Fred Berger, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a passé un cap ou des caps et qu'aujourd'hui, la pratique du sport, le bien-être du corps, l'activité physique, c'est quelque chose qui est nécessaire et une bénédiction.
Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que pendant des siècles, le corps a été quelque peu méprisé, car étant objet de péché. Mais je dirais qu'après la Renaissance, et en particulier au moment de la Réforme, il y a eu assez rapidement, dans des collèges protestants, l'idée que l'exercice physique était bon, pouvait être bon. Et cette idée s'est développée, et un certain nombre de responsables, de pasteurs, de professeurs protestants dans des académies protestantes, etc., ont développé l'idée, mais parallèlement, comme nos frères catholiques, au fait qu'il fallait absolument un équilibre entre l'esprit et le corps. Et je dirais, l'apport des chrétiens à la pratique du sport est déterminante. Et dans le protestantisme, il y a eu deux sports qui ont été créés par des protestants. Si je ne me trompe pas, c'est le basketball et le volleyball. Et il y a d'ailleurs une grande salle de sport qui avait été construite pour les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, rue de Trévise.
Isabelle de Châtelu, dans l'Église catholique, le sport a quand même été assez rapidement présent, également dans les établissements scolaires, mais toujours avec un regard, disons, très suspicieux.
C'est intéressant de voir que bon, on en reparlera sans doute, mais les jeux antiques ont été interdits par les chrétiens au IVe siècle. Donc vous voyez qu'il y a eu un moment où les pratiques sportives poussées dans un sens qui ne nous semblait pas ajusté ont été interdites, en l'occurrence par Théodose Ier au IVe siècle. Mais bien plus tard, au XIXe, c'est sûr que l'Église catholique en France a largement contribué au développement du sport. C'est intéressant de voir que le sport s'est largement développé en Angleterre, et c'est vraiment cette inspiration de l'éducation des jeunes par le sport qui est arrivée assez doucement, hein, parce que quand on dit aujourd'hui que la France n'est pas une nation sportive, j'adhère assez à cette affirmation, parce que on prend l'exemple de Pierre de Coubertin qui va passer quelques temps en Angleterre, qui découvre les bienfaits de l'éducation dans les écoles anglaises, veut faire la même chose en France et se heurte vraiment à des portes fermées. Parce qu'en France, on était quand même plutôt dirigé vers une éducation intellectuelle, pays cartésien, où le corps, effectivement, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et c'est intéressant de noter que quand Pierre de Coubertin essaye de relancer ces jeux modernes, voilà, il va vraiment rencontrer beaucoup d'obstacles. Et Pierre de Coubertin, qui était chrétien, rencontre un père dominicain qui s'appelle le père Henri Didon, qui a eu la même intuition que lui, à savoir l'éducation des jeunes par le sport. Et le père Henri Didon, qui lui-même avait participé à deux Olympiades au petit séminaire près de Grenoble, a voulu, dans son établissement scolaire à Arcueil, développer l'éducation par le sport. Il avait créé des Olympiades avec une magnifique devise, plus vite, plus haut, plus fort, qui, pour ceux qui le savent, est encore la devise des Jeux Olympiques aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir que il y a eu une ambivalence, il y a toujours une ambivalence entre l'Église et le sport, même si moi je suis émerveillée de voir que en Ligue 1 aujourd'hui, en Ligue 1 de foot, il y a trois clubs qui viennent de patronage catholique. Donc en fait, l'héritage des patronages qui se sont développés à partir du 19e siècle,
on le voit aujourd'hui encore.
Considérable, exactement.
95 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu donc cet été. On parle des chrétiens qui ce matin ne seront pas en reste, hein, car les églises se mobilisent déjà depuis plusieurs mois pour être au rendez-vous. On se demande ce matin avec nos invités pourquoi et comment catholiques et protestants ont choisi de participer à leur manière au JO. Et vous avez la parole pour en discuter avec nous. Est-ce que vous trouvez ça normal d'ailleurs que les églises se mobilisent? Est-ce que vous pensez que les valeurs du sport soient aussi des valeurs évangéliques? Et si vous êtes consacré dans l'église catholique ou engagée dans l'église protestante, parlez-nous du sport que vous pratiquez et de ce qu'il vous apporte. 04 72 38 20 23 pour participer ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos deux invités jusqu'à 10h, Isabelle de Châtelu et Jean-Fred Berger, et puis Marc également au 04 72 38 20 23. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que disons, j'avais pensé à une image, parce qu'il faut que je sois très court, j'en suis conscient. Donc moi, je suis un sportif amateur, déjà. Je trouve que c'est très bon de bouger son corps, d'être bien dans son corps. Donc pratiquer un sport, c'est très bon pour la santé, voilà, tout simplement, et pour le moral. J'en abuse pas, je fais attention. Ben, je me suis déjà fait un peu mal, mais je suis jamais allé à l'hôpital, j'ai de la chance. Voilà, donc j'essaye d'être raisonnable quand même. Et voilà ce que je voulais dire. Point. Je pense que les Jeux Olympiques sont une opportunité pour bien promouvoir la paix aussi. Mmh. Je pense que l'être humain a un esprit de conquérant, un esprit de guerre, etc. Bon, je suis pas spécialiste, mais je pense que tout ça, je ne me trompe pas dans ce domaine-là. On a un esprit de compétition, bon, et il faut le mettre au service, bon, de belles choses, que ça soit quelque chose de positif, de constructif. Et les Jeux Olympiques, c'est une opportunité, donc, pour promouvoir la paix, et qui doit être bien utilisée, donc, pour cela. Et la guerre, ben, si on fait une image, je vais faire court, hein, une image. Il y a deux camps. Donc il y a le camp adverse et le camp d'équipe qui doit gagner, oui. Une coupe, etc. Bon.
Jusque-là, ça va.
Voilà, donc il y a deux camps. J'essaie de faire une image. Dans les jeux sportifs, etc. Quand il y a une guerre, il y a aussi deux camps. Il y a une limite, le front. Il y a en face, il y a les méchants. Dans son camp, on est gentil puisqu'on doit défendre son camp. Mais là, c'est de la guerre. Hein. C'est pas pareil. C'est pas des balles en plastique. Hein,
ah ouais. Eh bien, c'est l'image voilà. Est intéressante et voilà, on va donc, pouvoir.
Oui. Voilà. Dans l'esprit guerrière, on a tous un esprit guerrière de conquérant. C'est bien. Mais il faut bien utiliser cet esprit guerrière de guerre. Pas de guerre. Oh là là.
Non, non, mais on a compris, Marc. Voilà. Merci.
Voilà ce que je voulais dire. Je vais pas abuser de votre antenne. Très bien. Bonne continuation.
Mais c'était très intéressant. Et... Merci, Marc. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Jean-Fred Berger, je me tourne vers le militaire que vous êtes et vous avez baigné dans ce monde. Quel regard vous portez sur ce témoignage de Marc qui nous dit qu'il y a ce rapport à faire aussi avec la guerre entre deux camps qui s'affrontent?
Alors, incontestablement, l'être humain, depuis l'aube des temps, il y a eu des guerres. Hein. L'être humain ne peut pas passer à côté des grands fléaux qui font vraiment partie du péché. Et il me semble que le sport, notamment les Jeux Olympiques, offre une occasion exceptionnelle d'une trêve, d'une paix entre les peuples, entre les nations. Alors, l'Antiquité grecque nous apporte ce message. Il y avait une trêve de plusieurs mois pendant la durée des Jeux Olympiques, et toutes les nations qui étaient en guerre, toutes les cités grecques qui étaient en guerre les unes contre les autres, s'arrêtaient à ce moment-là. Et on pouvait circuler à nouveau à l'intérieur entre les cités grecques, etc. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, et d'ailleurs, on le voit bien, il y a une sorte de démonisation des pays considérés comme agresseurs, etc. Et on veut les exclure des Jeux Olympiques, on veut les exclure en tout cas avec leur drapeau, etc. Et pour moi, les Jeux Olympiques de 2024 revêtent une signification toute particulière dans le contexte du retour de la guerre et sur le sol européen et comme moyen, je dirais, de restauration de la puissance d'un certain nombre de grands empires qui se réveillent. Et donc, c'est très important. Et comme Marc le disait, c'est tellement plus bénéfique pour l'humanité de se retrouver autour d'un stade ou voir sur les écrans de télévision lors de l'affrontement en suivant des règles, en respectant son adversaire, en l'estimant et en affrontant soi-même ses propres difficultés, ses propres limites, que de se retrouver sur un front et à combattre et à devoir, je dirais, neutraliser, entre guillemets, un ennemi que les circonstances, que les événements, que l'histoire nous amène à considérer comme ennemi. Et qui demain devrait être peut-être un ami à nouveau, mais au prix de tant de vies sacrifiées. Et donc, incontestablement, je rejoins totalement ce que disait Marc, ces Jeux Olympiques ont une signification toute particulière sur un message de paix entre nations. Et l'Évangile est vraiment de ce message de paix.
Véronique, on a
un autre auditeur, allons-y.
Exactement, c'est Marc qui a lancé un petit peu la ronde des auditeurs. Gilbert, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour à vos invités. Je vous appelais juste pour savoir s'il serait possible de faire une distinction qui, à mon sens, est importante entre, dans ce qu'on appelle vaguement les valeurs du sport, entre la pratique du sport et la compétition sportive. Je vous dis ça parce que, ayant été emmené très tôt, enfin très jeune, sur le bord des terrains de sport dans différents endroits, j'ai pu constater ce que les adultes autour de moi avaient alors retenu de ce qu'on appelle les valeurs du sport, c'est-à-dire la mise en compétition des êtres, la colère, l'agressivité, les insultes, les agressions, le chauvinisme, le nationalisme, le racisme, l'homophobie, etc. Enfin, des choses qui, pour moi, sont quand même très éloignées des valeurs de l'Église.
Mmh. Ah bah écoutez, question simple, et c'est merci beaucoup de l'avoir posée. Gilbert, je me tourne vers vous, et Isabelle de Châtelut, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, si vous me permettez, je voulais d'abord réagir à ce que Marc a dit et à ce que Jean-Fred a complété, c'est-à-dire que la paix à laquelle on aspire, c'est une des raisons principales pour lesquelles on s'engage sur ce projet. C'est-à-dire que Jean-Paul II disait en 2000, le sport est un signe des temps. Et si aujourd'hui on se disait que ces JO qui nous arrivent, ils sont beaucoup décriés en France parce qu'on est en France, qu'il y a cet esprit critique, mais si on se disait, voilà, on arrive dans cette période avec une espérance que nous, chrétiens, on porte, et qu'on porte pour notre pays, que ce temps sera un temps de joie. Jean-Paul II disait, le sport est la joie de la vie. Et moi, je vois cet événement arriver avec d'abord beaucoup de joie, parce que notre pays a besoin de se retrouver, a besoin de s'unir. Notre monde est gangréné de nombreux conflits, j'ai envie de dire de plus en plus, et effectivement, on est tous conscients des tensions qui règnent partout dans le monde. Ces Jeux Olympiques sont une possibilité qui nous est donnée, pendant au moins un temps, de nous rassembler, de vivre une expérience commune. Et je crois profondément qu'il nous faut être plein d'espérance sur cet événement. Bien sûr qu'il y a des critiques, bien sûr qu'il y a des limites. Et je viens d'entendre l'auditeur qui nous disait, voilà, attention, quand on parle de valeurs du sport, elles sont parfois loin de l'évangile. Le sport n'est pas une fin en soi. Le sport est loin d'être parfait. Mais l'Église a toujours posé un regard positif sur le sport pour deux raisons. Je me permets juste de m'arrêter sur deux papes qui se sont exprimés de manière intéressante sur le sport. Jean-Paul II s'est beaucoup intéressé au sport, puisqu'on disait que c'était l'athlète de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est ce qui se joue dans le corps, dans l'éducation individuelle. Qu'est-ce qui se joue dans mon corps quand je pratique le sport ? Le pape François, lui, s'intéresse beaucoup à ce qui se joue dans le corps social. C'est-à-dire que le sport est un bienfait pour le corps social. Et depuis 2004, l'Église catholique a lancé une section Église et sport au Vatican, avec pour objectif justement de travailler sur ce qu'est le sport aujourd'hui. Attention à ses dérives, attention à l'argent, attention à l'esprit de compétition qui devient poussé à outrance, qui nous pousse à être des machines. Donc oui, l'Église a ce regard de vigilance, et c'est bien pour ça qu'on est présent dans cet accompagnement des Jeux qui nous arrivent, parce que l'Église a quelque chose de beau et de bon à dire et à poser sur cet événement.
Des propos qui sont quand même intéressants dans un contexte, vous le rappeliez, Isabelle de Châtelut, où on est en France et où on ne peut pas s'empêcher de décrier, de critiquer et de toujours voir, ou souvent en tout cas, la coupe à moitié pleine. Ça vous agace ?
Non, ça m'a. Je pense que c'est le cas dans toutes les Olympiades. L'expérience que l'on a des autres Olympiades, c'est que c'est souvent la réalité. Il y a des questions financières qui sont posées par la société. Maintenant, moi, j'ai habité à Londres au moment où Londres a obtenu les Jeux Olympiques. Je peux vous dire que c'était pas tout à fait la même ambiance. Les Anglais sont pétris de sport. Ils vont à la messe en tenue de sport avec leur maillot de foot. Donc eux étaient pétris, étaient fiers de recevoir les JO. Je vois pas une énorme fierté dans notre pays. Alors qu'honnêtement, ça fait 100 ans qu'on les attend, ces Jeux. En tout cas, moi, je suis très heureuse. Ça fait 100 ans qu'on les attend. Et c'est aussi le message que j'essaie de porter, nous, dans notre Église, dans le cadre de ma mission, de mobiliser les évêques. Et je suis vraiment heureuse de voir combien ils se mobilisent. Il y a plus de 30 évêques qui ont nommé un délégué oligème, c'est-à-dire un délégué pour les Jeux, sur son territoire. C'est extraordinaire. Mmh. Et on sent qu'à la conférence des évêques, c'est un sujet qui est abordé. On voit des prêtres aussi se mobiliser. On pourra en reparler sur des événements très concrets. Donc voilà, l'Église, elle est en train de bouger. Et notre pays aussi est en train de bouger. Et j'espère vraiment qu'il va bouger positivement autour de cet événement.
Jean-Fred Berger, qu'est-ce que vous pensez, vous, des critiques qui sont... formulé, que l'on entend un peu partout au sujet des JO et de la démesure, notamment que ça suppose et du coût exorbitant.
Alors, incontestablement, là aussi, il y a une instrumentalisation du sport hein, qui a toujours existé et des grands pays ne passent pas à côté de l'occasion de manifester leur puissance. Et d'ailleurs, quand il y a eu des Jeux olympiques dans des pays... oui, à caractère totalitaire, hein, comme les Jeux olympiques en Allemagne nazie, il y a eu la volonté d'utiliser cela pour exalter une idée de son pays, de sa race, de sa nation, etc. Donc, effectivement, il y a une différence entre les valeurs de l'Évangile et les valeurs du sport quand il est manifesté de manière exacerbée. Hein. Mais au-delà de ça, il y a des valeurs d'espérance qui sont contenu dans le sport. Et moi, je dirais aussi que c'est à l'amour que les chrétiens ont les uns pour les autres et que les hommes ont les uns pour les autres que nous pourrons être reconnus comme disciples du Christ. Et donc, le sport et la foi, ce sont des occasions extraordinaires, uniques, de rassembler des hommes de toutes origines, du monde entier, en un lieu, d'y partager une aventure, je dirais, planétaire, et de vivre quelque chose qui ensuite est partagé dans tout le pays, dans les familles,
et
etc. Donc, il y a quelque chose d'exceptionnel.
On va en reparler avec vous deux, Isabelle Le Châtelet, Jean-Fred Berger, avec vos témoignages également pour nous parler du rapport entre sport et foi, pour nous parler des Jeux Olympiques au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Est-ce que vous trouvez normal que les églises se mobilisent à l'occasion des Jeux Olympiques? Est-ce que vous pensez que les valeurs du sport soient aussi des valeurs évangéliques? Et si vous êtes religieux, prêtre, pasteur, religieuse, bien sûr, venez témoigner, nous dire si vous pratiquez du sport, ce que ça vous apporte. On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 par mail également à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Moi, je voudrais vivre vieux pour me poser enfin, suivre le chemin bleu des veines sur mes mains, me rappeler un peu ma petite gloire ancienne. Quand on foutait le feu sur n'importe quelle scène, en n'importe quel lieu. Moi je n'aime pas ce temps-là qui s'enfuit et qui s'en va. Je voudrais, quand je serai vieux, être encore amoureux. Possible heureux. Je voudrais être plus vieux pour revoir en riant tous nos jeux dangereux, toutes nos conneries d'avant. Être assis et regarder ma collection d'instants, quelques larmes versées pour les amis manquants. Garder des yeux d'enfant sous de beaux cheveux blancs. Moi je n'aime pas ce temps-là qui va bien. Moi je n'aime pas.
et si possible, moi je n'aime pas ce temps-là qui s'enfuit et qui s'en va. Je voudrais, quand je serai vieux, être encore amoureux et si possible.
Si possible, heureux, c'était Blanca, c'est Gauvin Serre pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos deux invités jusqu'à 10h, on accueillera Marie-Josée dans un instant au 04 72 38 20 23 et je vous lirai un témoignage de Jean-Louis de Montpellier. Je rappelle que nous avons nos deux invités, Isabelle de Châtelut, directrice de Holy Games, le projet de l'Église catholique pour les JO et les Jeux paralympiques de Paris, et puis Jean-Fred Berger, coprésident de la commission JO et paralympique de la Fédération protestante de France. On continue, Véronique.
Alors, dans quelques minutes, à partir de 10h, Melchior, vous donnerez des détails avec vos invités sur la manière dont les églises vont être impliquées de manière très concrète, oui, sur le terrain, c'est le cas de le dire,
bravo,
à l'occasion de ces JO. Mais quand même, on va commencer avec nos deux invités à parler de la façon dont les églises se mobilisent. Isabelle de Châtelut, Holy Games, c'est né comment et en quoi ça consiste?
Alors, Holy Games, c'est un projet qui est né, j'ai envie de dire, il y a 3 ans, quand la France s'est vue attribuer les Jeux Olympiques. Il y a un certain nombre de personnes dans l'Église qui se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de cet événement qui nous arrive? Notamment, Monseigneur Philippe Marseille, qui est un des évêques auxiliaires de Paris, François Morinière, qui était l'ancien dirigeant du journal L'Équipe, qui est un chrétien engagé, et Arnaud Boutéon, qui a écrit un livre intitulé « Comme un sportif de Dieu ». Et ces 3 personnalités ont commencé à réfléchir à la place que l'Église pouvait occuper pendant ce temps des Jeux. Elles ont commencé par rencontrer les autorités, les responsables de Paris 2024, à savoir Tony Estanguet, le responsable de la Solideo, les responsables, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, pour poser la question suivante: est-ce que l'Église a sa place? Quelle place l'Église pourrait occuper? Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, le COJO a dit à l'Église, en fait, on a besoin de vous. Il y a d'abord une première mission, comme je le disais tout à l'heure, qui est d'animer le centre multiconfessionnel avec les autres religions. Mais il y a également une mission qui nous est donnée de manière non officielle, qui est de mobiliser, puisque le COJO est conscient que nous sommes en capacité de mobiliser, notamment les jeunes. Et nous avons également sollicité pour permettre aux personnes en précarité de pouvoir vivre d'une certaine manière ces Jeux Olympiques. Donc c'était les 3 points qui ont été mis en avant. Et puis pour porter ce projet, il a été très vite identifié que c'était important d'avoir une marque, en fait, qui puisse permettre de regrouper toutes les initiatives déjà existantes en France dans l'Église catholique autour du sport, et puis pour pouvoir porter ce projet au-delà des Jeux. Donc Holy Games, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a un chemin de sainteté par le sport, un chemin possible, et Games, c'est rappeler aussi que le sport est d'abord un jeu. On parlait de compétition tout à l'heure. La compétition, elle est bonne, mais il est bon de se rappeler que le sport doit d'abord être un jeu, une occasion de fraternité. Donc ce projet Holy Games est né en avril 2023. Il a été lancé à l'Annonciature de Paris, en présence d'un certain nombre d'évêques, pour porter ce projet sur tout le territoire.
Jean-Fred Berger, du côté de l'Église protestante de France, comment est-ce que on a choisi, décidé de s'organiser? Est-ce que les choses se sont faites conjointement avec l'Église catholique et ce que Isabelle de Châtelut vient de décrire?
Alors écoutez, c'est assez saisissant parce que simultanément aux efforts au sein de l'Église catholique, les protestants se sont aussi organisés. Il y a eu la Fédération protestante qui a mis sur pied une commission qui a commencé à y réfléchir dès 2020. La commission a commencé à exister en 2021, 2022, des réunions. Les responsables, la coprésidente et moi, nous avons rencontré Monseigneur Gobillard, Monseigneur Marc Marseille simultanément, parce que la volonté des deux présidents de la Fédération protestante, le pasteur Claveroli, puis l'actuel président, le nouveau président Christian Krieger, nous ont fixé comme objectif une dimension œcuménique affirmée. Et donc, nous avons simultanément, avec nos frères et sœurs catholiques, mais aussi les orthodoxes, travaillé pour avancer, je dirais, non pas face, mais je dirais avec comme vis-à-vis les autorités du pays, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, le comité olympique. Et donc, nous avons eu exactement la même nécessité de mettre sur pied toute une organisation. Et donc, cette commission, parce que dans le protestantisme, tout est horizontal sauf le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'on peut parfois le résumer. Tout a été réfléchi. Il y a à la fois l'organisation de l'aumônerie, et puis il y a simultanément, je dirais, la multitude d'initiatives au plan local, dans les paroises, dans les églises protestantes, voilà, et évangéliques.
Dont il sera question
pas seulement
à 10h.
Régional.
Oui.
Voilà, exactement.
Alors, c'est une magnifique opportunité pour les chrétiens, Isabelle de Châtelus, de là à dire que c'est une forme d'opportunisme.
Non, je crois qu'il était temps. En fait, je disais tout à l'heure que l'Église catholique a créé une section Église et Sport en 2004 à l'initiative de Jean-Paul II à la fin de son pontificat. Donc, vous voyez, il a fallu 20 ans pour que l'Église catholique en France se ressaisisse de ce sujet, parce que le monde du sport, qu'elle avait un petit peu abandonné, pour être très honnête, est un formidable lieu de rencontre, d'évangélisation aussi. Hein. Mais le pape François nous dit que le sport est un objet de rencontre, de formation, de mission et de sanctification. C'est un discours qu'il a fait en 2018 qui nous inspire beaucoup dans notre projet. Voilà, le sport est un lieu de rencontre, un lieu de formation, d'éducation, de culture également. Une occasion de mission, oui, parce que nous, on le voit un peu comme un congrès mission aussi, cet événement JO qui arrive. On essaie de mobiliser les mouvements, les associations qui sont habituées à porter l'annonce de l'Évangile. Et puis, bien sûr, une dimension spirituelle, puisque c'est quand même notre savoir-faire, notre cœur de métier. Et je voulais dire, parce qu'on est avec Jean-Fred Berger, que la première chose qu'on a faite ensemble, en septembre 2022, c'est de rédiger une prière pour les Jeux Olympiques. Et cette prière, elle est commune à tous les chrétiens. Donc il faut savoir que depuis septembre 2022, on prie tous ensemble pour cet événement, pour les organisateurs, pour l'organisation officielle, pour les athlètes,
à quel moment
qui se préparent. À toutes nos réunions, quand on se retrouve, nous en tout cas, nos réunions avec les catholiques, mais aussi avec les protestants, et on se voit énormément, donc elle est diffusée déjà largement dans certaines paroisses. Et c'est une vraie joie de porter ensemble cette prière. On aura l'occasion peut-être de reparler d'un événement à venir le 8 mai, là, à l'occasion de l'arrivée de la flamme, où on va même porter dans la prière spécifiquement tous les athlètes qui sont déjà qualifiés pour les JO. Donc ce sera une très belle occasion de porter ensemble cet événement.
Oui.
Jean-Fred Berger, une question peut-être avant de prendre
une auditrice.
Alors pour les églises, c'est une magnifique opportunité, mais est-ce que vous pensez que ça va répondre à un besoin ? Est-ce que vous pensez que parmi les athlètes, les participants, les équipes, les fédérations, je ne sais pas, toutes ces personnes qui vont être rassemblées à l'occasion de ces JO, bien, il y a aussi une demande du point de vue spirituel, de célébration, d'accompagnement, des moments où les athlètes, par exemple, auraient envie de parler, de prier.
Oui, je suis certain, ça répond à un besoin. Alors, il y a un besoin au cœur de tout homme, hein, de sens pour sa vie, un besoin spirituel, hein, que certains expriment et d'autres n'expriment pas encore. Mais nous pensons que le Saint-Esprit peut avancer sur cela, transformer les vies. Nous nous appuyons sur les statistiques des Jeux Olympiques précédents, et nous savons que dans des centres multiconfessionnels ou multireligieux des JO précédents, ce sont des milliers d'athlètes qui viennent pendant la durée des Jeux Olympiques, parfois pendant quelques minutes, 10 minutes, etc. Mais ce sont des milliers de contacts qui ont lieu avec les différents représentants des religions. Et nous savons que pour la religion chrétienne, hein, donc les catholiques, protestants et orthodoxes, ce seront des milliers de contacts que nous aurons avec des athlètes qui viendront dans le cadre du village olympique. Et nous savons que les besoins sont très importants, sont multiples. Vous savez que on peut critiquer cette instrumentalisation, mais il est essentiel de donner du sens pour des personnes qui sont en déséquilibre dans leur vie, à la veille d'une épreuve, qui ont donné le maximum pour arriver là, qui ont parfois, c'est étonnant d'ailleurs, on nous a placé le centre multiconfessionnel à côté du centre antidopage. Je trouve ça extraordinaire, c'est un humour de Dieu. Il y a une rencontre possible pour des personnes qui viendront confier leurs difficultés, leurs craintes, leurs espoirs à des personnes qui les écouteront avec bienveillance et qui prieront avec eux dans la simplicité, dans le secret.
Bonjour Marie-Josée.
Bonjour à tous, bonjour à vous-même. Je trouve que tout ce qui est, c'est pas de moi je crois, tout ce qui est de l'homme, de l'humain, intéresse Dieu, intéresse le Christ. Le Christ, il a été aussi, on peut dire, un formidable marcheur. Il marche partout. On peut pas dire qu'il prenait un hélico ou bien une voiture. Il y a aussi une autre personne dont je me rappelle. C'est aux États-Unis, une religieuse qui était très sportive, surtout pour le lancer, qui s'appelle le pitch. Et elle est venue à cette compétition donc aux États-Unis avec son habit de religieuse. Donc je la vois, il y avait une photo, je ne sais plus où, une religieuse, donc Marie-Jo qui faisait la compétition de poids.
Ah, de poids.
Ouais. De poids lancé. Oui.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Marie-Josée pour votre appel ce matin au 04 72 38 20 23. Isabelle de Châtelus, je crois que vous voulez réagir.
Je voulais réagir parce que je suis frappée, moi, depuis le début de ma mission, par la soif incroyable des sportifs. En tout cas, ils nous l'expriment réellement. Vous demandiez s'il y avait un vrai besoin. On répond à une attente assez extraordinaire. Je voudrais prendre deux exemples. La première, c'est qu'on a fait l'année dernière avec Mgr Gobière un pèlerinage à Rome, en mars dernier, avec le Variété Club de France qui rassemble les anciennes gloires du foot français. Il y avait 120 joueurs de foot qui étaient présents. Il y a eu des témoignages de foi extraordinaires de joueurs qui, peut-être, avaient une foi enfouie en eux, qui n'avaient peut-être pas été réveillés depuis longtemps. Des joueurs qui ont témoigné de l'importance de la foi dans leur vie, dans leur pratique sportive, en tant qu'entraîneur. Et puis je voudrais aussi montrer l'importance que cette mobilisation a en regardant le nombre de chapelles des sportifs qui naissent cette année. Je pense bien sûr à celle de l'église de la Madeleine qui a été inaugurée à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby à Paris. Je pense à celle de Créteil, je pense à celle d'Evreux à l'inauguration de laquelle je suis allée la semaine dernière. Et puis il y en aura une bientôt à Lyon, à Fourvière. Il y a une vraie attente et moi je suis frappée de voir qu'à la Madeleine on reçoit tous les jours des intentions de prière il y a une tablette numérique qui permet de laisser des intentions. On a des intentions, des demandes de bénédiction, de personnes, d'équipes, des demandes de rencontres avec des aumôniers, des intentions qui nous sont laissées. Il y a une vraie soif. Et le monde du sport nous dit presque merci, ça y est, il était temps, comme si enfin l'Église posait son regard sur ce que eux vivent en tant que sportifs de haut niveau, ce que le sportif du dimanche pratique également. Et je crois qu'il y a une vraie attente et une vraie joie du monde du sport de voir que l'Église considère avec bienveillance la pratique sportive.
Un message de Jean-Louis qu'on a reçu par mail. Il faut surtout être présent au JO parce que le sport concerne le corps en premier et qu'il est temple de Dieu. Mais le sport ne concerne pas que le corps. Il apprend à mieux se connaître, à vivre une aventure communautaire et aussi le chemin spirituel. Voir les nombreux sportifs qui ont vécu une aventure spirituelle à travers le sport ou une déchéance, faute d'avoir ignoré leur spiritualité. Le Christ a soigné le spirituel en soignant le corps. Je vis tout cela à 76 ans et d'autres plus âgés encore le vivent aussi. Bougez votre corps avec bienveillance et avec amour, nous dit Jean-Louis. Ça, il faut, c'est un appel pour nous deux aussi, Véronique, faire un peu de sport. Jean-Fred Berger.
Éventuellement.
Jean-Fred Berger, c'est un beau message de Jean-Louis.
Ah, je suis entièrement d'accord avec lui et je remercie Jean-Louis. Effectivement, l'image du sportif qui doit s'entraîner, c'est l'image du chrétien qui doit aussi chaque jour entraîner son corps, son esprit à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, au partage fraternel et puis à des actions au service des autres. Il y a un parallèle très fort. C'est saint Paul qui le fait entre la foi, le sport et le combat. Et donc, oui, l'exercice sportif est une école de, je dirais presque de sainteté, enfin une école de vie pour la sanctification. Hein.
Oui.
Quelles sont les valeurs, d'après vous, qui se rapprochent le plus des valeurs évangéliques dans le sport, Jean-Fred Berger?
Oh ben, écoutez, il y a d'abord comme valeur, il y a l'humilité, je pense, hein, le fait qu'il faut mesurer la petitesse des êtres humains, notre fragilité, mais en même temps les immenses qualités que Dieu nous donne, et chaque être humain a une grande dignité. Donc il y a une qualité, c'est la reconnaissance de la dignité de chaque être humain. Parlons maintenant des Jeux paralympiques. Je trouve extraordinaire quand on voit des personnes qui sont handicapés, qui n'ont pas leurs quatre membres et qui font qui se livrent à des épreuves sportives de très haut niveau, du niveau mondial. Cela, je dirais, outre l'humilité, il y a la dignité, il y a aussi l'espérance. C'est le fait que un chrétien, lui, il a dans son cœur l'espérance de cet amour de Dieu et de cette vie transformée future résurrection. L'espérance de l'homme avant son épreuve sportive est immense. Donc il y a énormément de qualités et je dirais de valeurs du sport qui rejoignent celles de l'évangile ou de l'évangile qui rejoignent celles du sport.
Isabelle de Châtelus.
Effectivement, c'est intéressant parce que c'est une des premières choses qu'on a faites en travaillant sur ce projet, c'est de travailler sur ces valeurs, fameuses valeurs du sport en lien avec les valeurs dans la foi. On a travaillé avec Luxel et la FSCF qui sont les deux fédérations sportives chrétiennes présentes dans les établissements scolaires et dans nos régions. Et on a identifié 12 valeurs. On a développé d'ailleurs un livret qui s'est répandu pas mal dans les aumôneries et les établissements scolaires. Un livret qui était à destination des jeunes pour qu'ils se préparent en travaillant des valeurs du sport en lien avec les valeurs dans la foi. Donc pour nous, on a travailler la joie, la persévérance, la confiance, effectivement l'humilité, comme le disait Jean-Fred, la prudence, la force, la justice, la tempérance, l'excellence, l'amitié, le don de soi et le sacrifice. Vous voyez, c'est 12 valeurs qu'on a choisi de travailler et c'est vraiment étonnant de voir les ponts qu'il y a entre un exercice physique qui va nous inviter par exemple au sacrifice et bien sûr ce que l'on vit dans notre expérience chrétienne. Et à travers ce livret, ce qui était intéressant et ce qui a beaucoup plu aux jeunes, c'est que en faisant le parallèle entre les valeurs sportives et les vertus dans la foi chrétienne, on a mis en valeur un certain nombre de figures sportives, de grands sportifs qui ont témoigné de leur foi et les jeunes ont été touchés de voir que oui, en réalité, un certain nombre de grands sportifs, que ce soit français ou étrangers, essayent au quotidien de vivre leur foi dans leur pratique sportive, ce qui, honnêtement, n'est pas facile quand on est sportif de haut niveau et qu'on veut concourir à des épreuves comme celles que sont les Jeux Olympiques.
Alors, il faut peut-être rappeler que, effectivement, un certain nombre de grands sportifs témoignent de leur foi. Il n'est pas rare qu'on voit des footballeurs, par exemple, arriver sur un terrain de foot et se signer. Est-ce que c'est important de savoir ce qui relève de la superstition ou d'une foi, disons un peu la foi du charbonnier, comme on dit, et d'une véritable démarche spirituelle?
Je voudrais dire, c'est que effectivement, on a souvent l'impression que c'est de l'ordre de la superstition. Moi, je reparle de ce pèlerinage à Rome que j'ai vécu l'année dernière, où il y a eu des témoignages extraordinaires. Je peux citer par exemple Christian Carambeu, dont certains se souviennent puisqu'il faisait partie de l'équipe de 98, qui nous dit au soir de ce pèlerinage, c'est une vie nouvelle qui commence pour moi. Jean-Michel Larquet qui me dit, c'est tout ce que j'ai vécu enfant dans ma paroisse de Saint-Pé-sur-Nivelle, pour ceux qui connaissent dans le Pays Basque, c'est tout ça qui renaît en moi, qui revit en moi. Arsène Wenger qui nous a dit combien il était ému, lui, en tant qu'entraîneur, de voir combien les valeurs qu'il avait vécues, qu'il avait reçues lorsqu'il était enfant de cœur dans sa paroisse en Alsace, l'avait en réalité guidé tout au long de sa vie d'entraîneur. Donc il y a peut-être de la superstition, mais il y a quand même quelque chose de profondément ancré dans la vie du sportif, parce que la vie du sportif, elle est éminemment exigeante, et que la superstition a peut-être un peu de place, mais l'ancrage est nécessaire. Donc moi, j'ai envie de voir dans tous ces gestes que l'on peut apercevoir de la part de footballeurs ou autres sur des terrains, d'abord comme la manifestation de la présence de Dieu dans leur vie, une sorte d'abandon. Voilà, ce que je fais là, je te le confie, je te l'offre, je te le donne. Alors, on n'a pas à savoir, j'ai envie de dire, l'immensité de la foi des uns des autres, mais il est bon et beau de voir que le sport peut, que la foi a vraiment sa place dans la vie des sportifs.
J'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté parce que j'ai reçu deux mails qui se complètent, notamment Michel qui nous dit « La finance a trop envahi le monde du sport pour que tout cela reste honnête. » Et puis Jean-Jacques, « Les églises feraient mieux d'être des promoteurs et des acteurs de paix au sujet des conflits actuels et combattre les discours des va-t-en-guerre plutôt que de s'occuper des JO qui sont repris politiquement et commercialement par quelques privilégiés opportunistes plus soucieux de leurs intérêts que du sport. » Alors c'est vrai qu'on sort un petit peu du sujet, mais vu que c'est l'église qui est directement pointé du doigt dans ces témoignages. Je voulais quand même qu'on aborde cette question, Jean-Fred Berger, parce que ça revient un petit peu, hein, c'est pas majoritaire, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de témoignage ?
Alors, moi, je suis bien d'accord qu'il peut et qu'il y a des travers et des dangers du sport en général et du phénomène mondial des JO, incontestablement. Et ne soyons pas dupes et restons lucides en tant que chrétiens face au sport. Donc, les différentes positions de ces auditeurs, on les rejoint totalement, je suis entièrement d'accord. Il y a une place très importante, il y a même une place, je dirais, qui dépasse l'entendement, hein. Il y a une forme d'exaltation sportive dans certains matchs de football où les supporters se massacrent entre eux, comme jadis à Byzance. Hein. Certes, le sport, c'est la santé et c'est la passion, mais ça peut aussi recréer des sentiments de violence entre des équipes de supporters. Également, donc, il y a, comme au travers, c'est la tentation de devenir un dieu du stade, hein, de devenir une sorte de dieu. C'est un travers. Un autre travers, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, le nationalisme exacerbé, l'affrontement idéologique, aussi le soft power, la façon dont les États essayent d'utiliser le sport, et notamment les Jeux Olympiques, et la façon dont ils vont les organiser pour manifester la puissance de leur nation. Et là, on s'éloigne un peu de l'idéal sportif et de l'idéal olympique. Et puis enfin, moi je dirais, il y a un côté martial, idéologique, mystique, dans toutes sortes de choses qui sont incompatibles avec l'évangile. Les dérives financières, elles existent dans toute entreprise humaine. Hein. Quelle est l'association, quelle est l'église, quelle est, je dirais, l'organisation qui ne peut pas un jour ou l'autre être atteinte par une difficulté mineure ou majeure d'ordre financier, etc. Simplement, il faut y veiller. Et moi, je pense que pour ces Jeux Olympiques, la France fait ce qu'il faut pour éviter une trop grande, une hypertrophie financière et commerciale. Mmh. Voilà.
Dans la mobilisation qui a été mise en œuvre et qui les JO n'ont même pas commencé, hein, donc et qui continue à l'être, Isabelle de Châtelet, de la part des églises, est-ce que vous sentez déjà une façon peut-être nouvelle aussi pour ces églises d'être présentes de manière très concrète auprès des sportifs, disons lambda, et dans le monde du sport après les JO? Est-ce que vous entrevoyez des choses qui n'avaient pas été mises en place jusque-là?
Oui, pour être très honnête, nous, le projet, moi, qui m'a été confié au départ, était axé sur les Jeux. Et la réflexion en ce moment est de se dire notre action ne va pas s'arrêter le 8 septembre, lorsque la flamme va s'éteindre. Je crois que les évêques perçoivent de plus en plus que il y a un vrai enjeu d'accompagner le monde du sport. Bien sûr, les sportifs de haut niveau, mais les sportifs du dimanche et cette réalité sportive que beaucoup connaissent. Donc notre réflexion, elle va bien au-delà des Jeux. Je crois que, pour revenir peut-être aux critiques qui sont faites à juste titre, hein, je crois que justement l'Église a quelque chose à dire pour remettre le sport à sa juste place. Le sport n'est pas une fin en soi, les Jeux ne sont pas une fin en soi. Par contre, il est bon de venir habiter cet événement parce qu'il y a des choses magnifiques qui vont s'y vivre. Moi, je pense vraiment, on parlait de la paix tout à l'heure, nous, on suggère à toutes les églises, les cathédrales, les diocèses par lesquelles la flamme va passer, elle va bientôt arriver, là, à partir du 8 mai, à organiser des veillées pour la paix. Voilà, que ce soit une occasion, ce passage de la flamme, de prier pour la paix. On organisera également une messe d'ouverture de la trêve olympique pour mettre cet événement sous le signe de la paix. Donc, bien sûr que cet événement est loin d'être parfait, qu'il y a beaucoup de dérives, et pourtant, moi, je suis convaincue que il faut qu'on vienne habiter cet événement. C'est même une invitation que le pape François nous fait d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos maisons au monde entier qui vient nous rejoindre en France cet été prochain.
Merci beaucoup Isabelle de Châtelut, directrice de Holy Game, le projet de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'avoir participé à cette émission. Jean-Fred Berger, merci aussi, mais moi je vous quitte alors que vous restez.
Quelle chance avec vous, Melchior. Oui, exactement. On va se retrouver dans la deuxième partie de Je pense donc j'agis. Merci beaucoup, Véronique, c'était un plaisir.
Si, à bientôt.
Eh ben, on va aller sur le terrain, hein. Allez, sans mauvais jeu de mots, on va voir concrètement. On va parler des propositions d'Holy Games, et puis on va voir aussi ce que va nous proposer la Fédération protestante de France, avec toujours vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.